Décryptualité, semaine 8 de l'année 2022. Salut Manu.
Salut Luc.
Toute petite revue de presse cette semaine, sans doute parce que l'attention est centrée plutôt du côté de l'Ukraine que sur le logiciel libre. Premier article, ZDNet France sur Linux, les problèmes de sécurité sont résolus plus rapidement. Un article de Steven Vaughan Nichols.
Alors c'est plutôt intéressant et ça confirme des choses dont on a déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'effectivement, quand il y a des bugs, ces bugs sont résolus relativement vite dans le monde du logiciel libre. Et en comparaison des entreprises et des logiciels privateurs, bah là, il y a des délais qui sont un peu rallongés, sachant que dans les mauvais, il y a Microsoft qui, lui, prend vraiment des dizaines et dizaines de jours, alors que dans le libre, ça peut aller très très vite. Donc il y a plutôt des bonnes pratiques dont tout le monde s'inspire en ce moment, il semblerait.
Oui, on rappelle que récemment, il y a eu quelques grosses failles sur Linux et dans d'autres logiciels libres, donc c'est pour ça que ce sujet est pertinent aujourd'hui. ZDNet France, à nouveau, vidéo. Donald Trump lance son réseau social, Truth Social, sur l'App Store d'Apple, un article de la rédaction.
Alors, c'est plutôt en mode bêta, si j'ai bien compris. Effectivement, il y a une application associée qui a l'air d'avoir bien monté dans les classifications d'applications dans l'App Store. Donc, pourquoi pas. Maintenant, on sait aussi que c'est basé sur du logiciel libre, c'est pour ça qu'on en parle. Hein. C'est basé sur Mastodon. Et moi, j'encouragerais plutôt à utiliser Mastodon dans ces cas-là, si on a quelque chose à dire sur Internet. Je sais pas ce que t'en penses. Hein.
Bah oui, surtout que voilà, si on va sur le réseau de Trump, ce sera pour dire des trucs qui vont dans le sens de Trump. Voilà. On parle de quoi cette semaine? Toute petite revue de presse, hein, deux articles seulement. Quel sera notre sujet de la semaine?
Bah, on peut parler d'open source, mais alors open source, un truc intelligent sur l'open source, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
On peut dire OSINT, comme ça on est un peu dans l'actualité terrifiante du moment. OSINT, c'est un acronyme.
Ah, une sorte d'acronyme, oui.
Qui veut dire Open Source Intelligence.
Et ça se traduit comme intelligence en source ouverte.
Donc, c'est en français, voilà.
En français.
Ce qui n'est pas du libre au final. Qui peut l'être, hein, mais c'est pas tellement cette idée-là. On en parle parce qu'il y a quand même des proximités et qu'effectivement c'est dans l'actualité. Il y a beaucoup d'infos qui circulent sur la guerre en Ukraine. Et au travers des réseaux, d'Internet et ce genre de choses, il y a beaucoup de travail qui est fait. On a des informations détaillées et très nombreuses sur ce qui se passe là-bas.
Moi, ça me fait beaucoup penser, et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant, à ce qui se passe après une catastrophe. Quand il y a eu un tremblement de terre ou quand il y a eu des grands problèmes qui touchent des grandes populations, il y a des photos satellites qui apparaissent, qui sont diffusées, il y a des informations qui sont transmises un petit peu à tout le monde dans le monde entier, aux internautes, et les internautes peuvent contribuer et participer à aider, à marquer où est-ce qu'il y a des camps, où est-ce qu'il y a des tentes, où est-ce que les bâtiments ont été détruits, les ressources d'eau. Et il y a vraiment un travail en commun qui est assez fort, et on a déjà parlé dans le passé.
Oui, et derrière, c'est une association, je ne connais pas le statut juridique, mais en tout cas des gens qui s'organisent, qui se forment et qui travaillent ensemble. Donc il n'y a pas ce côté un petit peu bazar avec des gens sur Internet à droite à gauche, même si je pense que plein de gens peuvent le faire. Mais il y a quand même voilà, des groupes de gens qui se donnent cette mission et se donnent les moyens voilà, d'agir plus efficacement. Et là, il s'agit effectivement de récupérer toutes les données possibles. Alors, c'est pas lié à cette guerre, hein, c'est des choses qui existent depuis longtemps, et où l'idée, c'est d'essayer de trouver des informations qui sont disponibles publiquement, donc de sources différentes qui peuvent être des publications. On peut avoir de la doc technique, on peut avoir des rapports, toutes les publications d'entreprises ou d'État ou ce genre de choses. On peut avoir des documents qui sont enregistrés par des particuliers. Dans la guerre actuellement en Ukraine, il y a énormément d'infos qui passent sur TikTok, le réseau social chinois.
Ce qui est fou, ce qui est fou.
Voilà, ce qui est fou. Hein. Mais en collectant tout ça, il y a moyen de recouper les informations, de les examiner. Et derrière, il y a des outils d'analyse divers et variés qui vont permettre notamment d'aller vérifier si les images qui sont montées sont réellement des images récentes. Donc on a notamment les métadonnées, on va voir des dates et des choses comme ça. Alors ça peut se trafiquer. Mais c'est intéressant d'aller comparer les images qu'on a pu avoir par rapport à des images d'archives pour voir si des fois on n'est pas en train de ressortir une vieille vidéo qui n'a rien à voir pour la faire passer pour autre chose. Ce qui est un grand classique dans les manipulations. Mais après, il y a toutes sortes d'outils qui vont par exemple regarder en fonction de l'ombre, de la longueur des ombres, etc., de voir quelle est l'heure de la journée, si on sait à peu près où on est, d'essayer de repérer une chaîne de montagnes ou des immeubles pour essayer de voir où on est, dans quelle ville, à quel endroit, etc., etc.
Oui, parce que contrairement à une catastrophe naturelle, là, c'est une catastrophe générée par l'humain. Et en face, il y a quelqu'un qui a tout intérêt à ce qu'on ne puisse pas retirer les bonnes informations. Et donc, il faut trier le bon grain de l'ivraie. Et c'est là que les milliards d'yeux humains disponibles peuvent essayer de contribuer à ça, comme tu le dis, en détectant tous les indices. Hein, c'est du travail de Sherlock Holmes. Et en essayant de remonter les imperfections qui sont souvent là, parce que des photos, c'est facile à trafiquer quand on a les connaissances, mais finalement, c'est aussi très facile de se tromper dans la façon dont on les a bidouillées. Et de détecter qu'il y a une bidouille, c'est quelque chose d'assez énorme, et il y a des gens qui sont spécialisés à ça.
Alors déjà, dans la bidouille de la photo, ça dépend qui est-ce qu'on essaie de tromper. Il y avait un cas assez connu, je crois que c'est l'Iran qui avait publié une photo très impressionnante où il y avait des tas de missiles qui étaient tirés en même temps, et où les gens avaient vu que le panache de fumée des missiles était rigoureusement identique. Et que donc, en fait, c'était des duplications sur une même photo, qu'il y avait un missile de tiré, et puis voilà, qu'ils avaient fait des duplications. Donc effectivement, des gens qui s'y connaissent, on les a pas comme ça. En revanche, si son objectif, c'est de faire de la propagande auprès du grand public, oui, ça marche, ça suffit. L'autre truc, c'est que dans un moment où la tension n'est pas aussi concentrée qu'aujourd'hui sur l'Ukraine, et où les gens sont pas autant impliqués, on peut faire de la désinformation en publiant, en payant des gens qui, à plein temps, vont trafiquer des trucs, ouais. Passer des infos.
Des fermes de trolls, hein, par exemple.
Oui, tout à fait. Là, en l'occurrence, les Ukrainiens, évidemment, sont les premiers concernés. Internet fonctionne encore, ce qui est assez incroyable. Hein. Il y a énormément d'informations qui montent. Donc ça devient compliqué quand tu veux essayer de tromper ton monde, de passer de l'information fausse et truquée dans une marée d'infos qui sortent beaucoup plus facilement parce qu'il n'y a pas besoin de les bidouiller, puisque c'est juste un enregistrement de la réalité. Et après, tout l'intérêt de ces méthodes d'analyse et de recoupement, c'est qu'on va publier l'analyse, les outils, comment on arrive à cette conclusion, et donc ça peut être revérifié par des pairs, comme dans le système scientifique, comme dans Wikipédia aussi, hein, où on va écrire des choses et où derrière on doit avoir des sources, et donc on peut réussir à se référer à des faits.
Il y a des communautés qui sont spécialisées là-dedans, il y en a une qu'on connaît de nom, on l'a déjà vu passer plusieurs fois, c'est Bellingcat. Alors, on n'y participe pas, donc on n'est pas dedans. Ils ne sont pas hyper producteurs de données, mais ils ont travaillé, notamment sur des photos en Syrie du grand temps de Bachar el-Assad, quand il y avait des photos de tonneaux remplis d'explosifs qui tombaient sur des quartiers où ils ont fait des travaux de vérification. Et il me semble aussi qu'ils avaient travaillé sur l'avion qui avait été descendu au-dessus de l'Ukraine il y a déjà des années de cela, l'avion néerlandais, et ils avaient réussi à montrer que c'était tiré par du matériel russe utilisé par les rebelles du Donbass. Et alors que les Russes disaient bien, attention, non, non, c'est les Ukrainiens qui ont tiré l'avion, c'est de leur faute. Et grâce à ça, ils avaient réussi à peu près, parce que ça reste des choses qui sont compliquées à prouver avec une certitude absolue, hein, bien sûr. Mais
ça a été prouvé plus tard parce que notamment les autorités néerlandaises ont récupéré la carcasse et que ils ont retrouvé beaucoup de traces. Il n'y a aucun doute sur l'origine du missile, mais effectivement, ça a été plus long. Ce qui est intéressant dans le cas de l'Ukraine, c'est que ça se fait en temps réel et dans des circonstances extrêmement difficiles d'une guerre en cours. Et on sait que dans une guerre, l'information est essentielle, parce que si on sait identifier le positionnement des ennemis, ben on peut coordonner des attaques. Et il y a finalement beaucoup de sources d'infos. Dans les choses que j'ai vues passer notamment, il existe des sites qui affichent tous les positionnements des transpondeurs des avions. Et il y a des fans hein, qui regardent ça toute la journée, ils voient quand les avions font des trucs bizarres, etc. Voilà, c'est comme les gens qui regardent les trains passer ou qui vont au début de piste pour voir les avions décoller, il y en a, ils font ça depuis leur fauteuil en regardant ça. Et bah, les Russes, malgré tout, leur aviation, elle utilise ces systèmes-là qui marchent. Et quand ils font décoller des avions depuis leurs aéroports, ils laissent le transpondeur parce qu'on ne veut pas avoir d'ambiguïté sur son terrain. On se dit, on est tranquille, on est chez nous, on le coupera quand on arrivera au-dessus du territoire ennemi. Puis ils ont la supériorité aérienne, donc ils se disent, bon, quel est le problème ? Mais du coup, des infos qui remontent de ce type-là, et avec toute la masse des infos, effectivement, on a ce sentiment, cette impression de pouvoir suivre en direct et savoir où sont toutes les troupes russes.
Une info qui a l'air de remonter, qui est un peu chelou, je ne sais pas exactement le fond du truc, mais ça a l'air de remonter par Google Maps. Google Maps, normalement, à peu près, arrive à voir le trafic et l'état du trafic, et on peut le voir en France. Bon, il s'appuie sur pas mal de systèmes de données, mais notamment la présence des téléphones portables. Et là, il semblerait qu'ils arrivent à voir et à repérer les mouvements de troupes russes sur les autoroutes ukrainiennes. Bah parce qu'il y a des téléphones portables qui sont dedans et que Google sait repérer par leur nombre. Il est capable de dire
est-ce que ça roule pas vite, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc là, il y a des données qui remontent, qui sont brutes, qui ne permettent pas de distinguer exactement le détail. Mais c'est après ce travail d'analyse qui va permettre d'en ressortir des informations. Et c'est là que la communauté internationale va contribuer.
Du côté des soldats aussi, c'est très compliqué aujourd'hui, maintenant que tout le monde a un téléphone, de contrôler ces informations-là. Il y a quelques semaines, sur un porte-avions américain, il y a un avion qui s'est crashé à l'atterrissage.
Un beau F-35, un tout neuf, sorti d'usine.
C'est ça. Et quelques semaines après, il y a eu des infos qui ont fuité, des vidéos tournées par des membres d'équipage et qui sont arrivées sur Internet. Ce qui, pour les militaires, est très angoissant, parce qu'un bateau au milieu de l'océan, en théorie, on doit pouvoir contrôler ce qui rentre et ce qui sort. Et on veut pas que n'importe qui puisse voir l'avion se crasher, etc. Et indépendamment de ça, si on est en guerre, on ne veut pas que les infos puissent fuiter ou qu'il y ait la moindre communication qui part du bateau qui ne soit pas contrôlée, parce que ça permet de détecter les gens.
Et c'est vrai que, par exemple, avec une vidéo qui a un timecode, parce que généralement, on enregistre l'horaire, il peut y avoir des métadonnées dedans qui peuvent vraiment permettre de donner précisément une localisation GPS. Et pour le cas du F-35, les Américains ne voulaient surtout pas que les Chinois, parce que c'était en mer de Chine, puissent aller le repêcher. C'était des informations vraiment critiques, mais même sans les métadonnées, on peut déduire, à partir d'un timecode et à partir d'un horizon, on peut déduire un ensemble de données sur une position approximative.
C'était McAfee, le créateur de l'antivirus, là, qui a mal fini et qui à un moment était en cavale suite à des sombres histoires d'accusations de meurtre. Hein, le type était complètement taré. Et il s'était fait griller parce qu'il y a un journaliste qui était venu l'interviewer là où il était en planque. Il s'est pris en photo comme deux kékés et en fait, les données de géolocalisation étaient dans la photo. C'était un iPhone. Et du coup, le mec en cavale, tout le monde savait où il était. Bien joué. Là, en Ukraine, il y a eu des histoires où, juste avant l'invasion, des Ukrainiens se sont aperçus que les soldats russes essayaient de matcher sur Tinder avec des Ukrainiennes de l'autre côté de la frontière. Bon, ce qui est assez incroyable, mais ce qui veut dire que les mecs ont des téléphones. Imaginez que sur les milliers, les dizaines de milliers de soldats, il y en a qui allument leur téléphone pour envoyer des nouvelles, prendre des photos, parce qu'ils n'ont rien compris, qu'ils en ont rien à foutre, c'est quasi certain. Derrière, Tinder, c'est une boîte américaine. Je pense que la NSA a des moyens d'intercepter des données massives, etc. Et donc rien que par ce biais-là, il y a possibilité de collecter énormément d'infos sur ce qui se passe. Donc ça devient difficile de cacher ces mouvements, en fait.
Sachant que, du côté ukrainien, les autorités ont instamment demandé à ce que les citoyens du pays évitent de trop diffuser d'informations, parce que les Russes aussi sont en train de regarder les vidéos, les photos qui circulent, et que bah, si tu es en train de filmer toi-même tes positions défensives, tu es en train d'indiquer là où il faut shooter, quoi.
Exactement, oui, oui.
C'est un jeu à double emploi, c'est juste qu'il y a ce brouillard de guerre qui est en train un petit peu de disparaître, mais qui est remplacé par trop d'informations. Et oui. De la mauvaise information. Et le trop et le mauvais d'information, c'est clairement quelque chose qui va surcharger tous les systèmes et qui va bah, avoir utilité d'avoir des communautés de gens intéressés.
Voilà, et des méthodes d'analyse de pointe. Il y a une autre info que je trouvais intéressante qui n'est pas liée à ça, mais QAnon, qui est le mouvement complotiste dont Trump est fan, etc. Il y a deux équipes de recherche distinctes hein, qui, en même temps, sont arrivées à la même conclusion en faisant de l'analyse de texte. C'est-à-dire qu'ils ont pris des textes publiés par des gens et voilà, plein de gens ont publié plein de textes, plein d'écrits un peu partout, et en faisant des analyses sur les caractères utilisés, etc., disent « Ah bah son style ressemble à telle et telle personne ». Et les deux équipes, en utilisant des méthodes un petit peu différentes, sont arrivées aux mêmes conclusions, donc en tapant sur deux républicains. Donc il y a plein de méthodes comme ça de surveillance, d'analyse des données, qui peuvent faire la différence face à ces volumes énormes de données, à la fois pour distinguer le faux, et également pour réussir à extraire de l'information utile. L'intelligence des foules, dans ce cas-là, peut effectivement être très efficace. Et donc cette intelligence des foules, c'est clairement une méthode parmi d'autres pour faire ces analyses, pour trouver ces informations intéressantes, faire ce tri. Ça rejoint un petit peu nos idéaux du libre. Ça peut marcher dans les deux sens. Hein.
On tire quand même un petit peu sur la corde en parlant d'open source intelligence et en le rapprochant avec nos problématiques. Mais c'est vrai que bah oui, hein, c'est le monde entier et l'intelligence d'Internet qui va peut-être contribuer un petit peu, tant que l'électricité fonctionne en tout cas. Parce que je pense que c'est ça qui va jouer. Je peux pas croire qu'ils vont pas couper le réseau. Ils s'y sont déjà préparés, hein. Rappelle-toi, la Russie, oui. Ils se sont déjà préparés à ce que leur réseau Internet soit coupé du reste du monde. Donc, en théorie, ils sont capables d'aller jusque-là.
Oui, oui. Ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans cette démarche-là aussi, c'est que avec tout le mouvement complotiste, les mouvements anti-vax, etc., on a des gens qui sont dans une recherche documentaire, qui vont lire plein de choses, qui croisent les informations et qui sont eux-mêmes convaincus d'avoir une démarche de recherche, une démarche critique, et qui pourtant arrivent sur des trucs complètement délirants, comme QAnon hein, et ce genre de choses. Comment on fait la différence entre de l'intelligence en source ouverte et juste de la croyance où on va brasser des infos qui nous plaisent? Parce que nous, finalement, on se contente de relayer ce qu'on lit dans la presse à droite à gauche. On le revérifie pas nous-mêmes. Et en cela, on n'est pas bien différent de quelqu'un qui va aller lire d'autres sources qui lui plaisent, qui vont dans le sens de ses croyances.
T'es dur, hein. Mais effectivement, oui, faut remettre en cause le scepticisme. Et il faut pas croire sur parole, toujours.
Et l'examen des faits fait la différence.
Effectivement, et ça, je pense que Wikipédia, clairement, c'est une bonne base, c'est une bonne façon de penser. Et je pense qu'en termes de civilisation, il faut qu'on y arrive le plus possible. Sur ce, je te propose de voir la semaine prochaine s'il y a encore de l'électricité.
Oui, on espère que les choses s'amélioreront du côté de l'Ukraine.
Et que ça va pas toucher le reste du monde, hein, faut pas qu'il commence à toucher le bouton rouge.
Très bien, et bien bonne semaine à tous.
Allez, à la semaine prochaine.
Salut.